ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Hello tout le monde.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour.
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 Alors, on voulait vous proposer de faire une petite émission sur les secrétaires, le métier de secrétaire, parce que voilà, c'est une thématique hautement féministe et politique, il y a énormément de choses à dire là-dessus, et on va voir ça. Et puis du coup, eh ben, on voulait vous dire qu'on est avec des invités, on a avec nous des invités. Alors déjà, on est toutes les deux, Samia et Caro, pour dégenrer. Et puis du coup, on est avec nos invités, est-ce que vous voulez vous présenter ?
Eh bien, bonjour, bonsoir, si vous nous écoutez le soir. Moi, c'est Hilda. Alors oui, ça m'a interpellée, cette thématique. Je suis donc actuellement en contrat à CDI, on peut le dire, à Radio Campus Grenoble, en tant que chargée d'administration et de développement, mais qui fait partie de la grande corporation des secrétaires.
Super.
Bah, bonjour, moi c'est Coralie et je travaille en ce moment en tant que secrétaire dans un laboratoire à l'université et ça fait 5 ans que j'y travaille, enfin voilà. Et bientôt j'en serai libérée, délivrée.
Bah, merci à vous d'être venue. Et puis alors du coup, Caro, c'était une émission aussi que du coup c'est un peu toi qui avais eu l'idée de faire cette émission. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur pourquoi cette émission?
Pourquoi? Parce que secrétaire, c'est une des professions les plus féminisées en France et en Europe, après les assistantes maternelles et les femmes de ménage, il me semble.
Les sages-femmes.
Les sages-femmes. Parce qu'on a tout un imaginaire autour des secrétaires et parce que c'est aussi un terme un petit peu ambigu, dans le sens où quand on pense à secrétaire, on voit à la fois une idée de subordination, ou en tout cas d'assistanat, enfin l'idée que ce seraient des personnes qui déchargeraient d'autres personnes dont le travail serait plus important pour que ces autres personnes puissent se concentrer sur ce qui serait le cœur du métier. Mais que parmi le secrétaire, nous avons aussi les secrétaires générales. Par exemple, à la tête des partis de gauche et des syndicats, alors que certains syndicats et partis moins à gauche appellent ces mêmes personnes des présidentes. Parce que dans le vocabulaire associatif, avec la sacro-sainte trinité du président, secrétaire, trésorière, souvent, il y a l'idée que secrétaire, c'est le titre que tu as avant. Et je connais beaucoup de personnes dans des associations qui disent « j'ai été secrétaire et ensuite j'ai pris la présidence ». Et en effet, quand on regarde des conventions de différentes activités, on voit que certaines secrétaires, les secrétaires générales, sont des cadres. Mmh. Alors, j'avais envie de démêler tout ça.
Super. Et alors, du coup, pour démêler tout ça, t'avais proposé de faire un premier point, d'aborder un premier point, ce serait un peu l'historique du métier.
En effet, pour trouver des informations sur l'historique du métier, j'ai trouvé deux sources principales. La première, c'est la chercheuse française Delphine Gardet, qui s'intéresse pas mal à l'évolution du milieu administratif, l'histoire des techniques et les conséquences sur l'organisation du bureau. Et d'autre part, j'ai trouvé un autre livre en anglais, écrit par une autrice qui s'appelle Lynn Peril et qui s'intitule « Swimming in the Steno Pool, a Ritual Guide to Making It in the Office ». Lynn Peril, c'est une autrice qui est secrétaire depuis les années 80 et que c'est l'activité qu'elle a trouvée comme gagne-pain pour pouvoir financer ce qui lui intéresse dans la vie, c'est-à-dire écrire des livres. Et ce livre-là, c'est un livre qui retrace l'histoire et l'évolution des métiers de secrétaire en se basant sur les guides de la secrétaire, parce que au fil des années, il y a eu de nombreux magazines spécialisés et autres guides, parfois écrits par les fabricants de machines à écrire, parfois écrits par les écoles de secrétariat pour faire leur pub, avec des titres comme How to be a secret secretary, How to survive in the executive jungle. Et par tous ces livres, on peut voir en creux ce qui est attendu des secrétaires.
Il n'y a aucune salle de bain pour noirs dans ce bâtiment, ni nulle part ailleurs que dans le campus ouest à 1 kilomètre d'ici. Vous le saviez? Je dois marcher jusqu'à Tombouctou rien que pour vider ma vessie. Et c'est hors de question que j'utilise une bicyclette. Vous imaginez, monsieur Harrison? Avec mon uniforme? La jupe en bas du genou, avec des talons, et un simple rang de perles, mais je n'ai pas de collier de perles. Dieu sait que vous ne payez pas les noirs assez cher pour qu'on se paie des perles. Et je travaille comme un chien, jour et nuit, en me servant d'une cafetière que personne ici n'ose toucher.
C'était chouette, ça. C'était quoi?
C'était un extrait du film Les Figures de l'Ombre. Voilà. Et je vous invite grandement à aller voir ce film très intéressant, basé sur des personnages qui ont réellement existé. Et c'est des femmes, noires souvent, calculatrices, qui ont permis, entre autres, d'envoyer des gens dans l'espace, à la NASA.
À la NASA,
ouais. Voilà. Et donc, tu disais, Caro.
Et donc, Delphine Gardet, elle raconte qu'au départ, au début du 19e siècle, les professions administratives, c'était un monde d'hommes principalement. Et les premiers professionnels de l'écrit, c'était donc des hommes. Un des travaux emblématiques de la secrétaire, c'est le travail de transcription. Avec la secrétaire qui prend la dictée des lettres que veut écrire son patron, grâce à l'écriture sténographique, un type d'écriture qui permet d'aller aussi vite que la parole, et puis qui retranscrit. Les premières personnes à retranscrire étaient des hommes, et les premiers usages, c'était pas dans les entreprises, mais c'était dans les tribunaux pour prendre en note les procès et dans la sphère politique pour prendre en note les débats.
Oui, c'était particulier, c'est toujours le cas, je crois que c'est la sténographie, on appelle ça.
Ouais, on les voit encore des personnes qui ont de petites machines, voire même maintenant qui ont des micros qui isolent leur bouche de l'extérieur pour qu'ils puissent parler directement à leur logiciel de reconnaissance vocale. Et ça ressemble à une gigantesque trompe, très steampunk.
Vive la technologie.
Et puis, ensuite, les administrations se sont développées et il y a eu besoin de produire davantage de documents administratifs. Et c'est à partir de là que les bureaux se sont féminisés. Et la féminisation des métiers de bureau est également liée à l'apparition de la machine à écrire. Avec une période où les hommes chargés des écritures manuelles étaient en compétition avec des femmes qui avaient des machines à écrire et qui pouvaient être payées beaucoup moins cher parce qu'on partait du principe que les hommes avaient besoin de nourrir leur famille alors que les femmes faisaient juste ça pour de l'argent de poche.
Oui, c'était ça. C'était la grande période de recrutement des dactylos, notamment aux États-Unis. Et du travail à la chaîne, comme on en parlait.
Ce que j'ai lu également, c'est que les premières dactylos étaient des femmes issues de milieux plutôt aisés, pour qui on considérait que le travail de secrétariat, c'était une forme de travail propre, approprié, qui pouvait leur servir pendant une période transitoire avant le mariage, ou en cas d'accident de la vie, veuvage, etc.
On parlait, tu disais tout à l'heure, en préparant l'émission, tu disais que c'était aussi, au début du XXe siècle, un métier qui, quelque part une occupation, plus précisément, entre guillemets, qui était dévolue à des bourgeoises.
Mm.
Pourquoi tu disais ça ? Parce que peut-être il fallait quand même un peu avoir une forme de culture générale,
voilà,
je pense.
Hein.
Il fallait peut-être aussi savoir se tenir en société, en fait.
Et lire et écrire. Ceci dit, tu m'as appris une chose, Caro, hyper intéressante. Je ne savais pas qu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait que des secrétaires hommes. Et c'est là où je peux comprendre, parce que moi j'aimerais bien beaucoup en parler plus tard, c'est-à-dire sur le fait que, ben, en tant que secrétariat de délégation, etc., on est amené à connaître plein de choses et être tenu au courant de plein de choses aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais avec l'intensification de travail, un nouveau type d'activité est apparu et qui était lié à l'invention du dictaphone. C'est-à-dire que avant, donc, le patron avait sa secrétaire qui venait à son bureau et qui prenait des notes. Avec le dictaphone, le patron pouvait enregistrer au moment où il voulait les documents qui voulaient être transcrits et les confier à des femmes qu'il ne croisait jamais. Mmh. Et certaines entreprises ont donc expérimenté avec des poules sténo, qui était donc un ensemble de femmes réunies dans une pièce et qui était chargée de transcription de textes dont elles n'avaient pas le contexte et dont finalement la condition se ressemblait pas mal à la condition ouvrière. Elles étaient dans une sorte d'atelier, elles étaient payées au rendement, avec certaines exigences de productivité. Dans mes souvenirs, l'exemple qui a été donné, c'était 70 lignes par heure. Et avec des pénalités de salaire de montants différents quand il y avait des fautes de frappe, des fautes d'orthographe. Le plus pénalisé, c'était faire une faute dans un nom propre. Tandis que de l'autre côté, on avait des secrétaires d'élite qui, elles, étaient les assistantes directes des hommes qu'elles servaient, en contact plus rapproché, avec plus d'initiatives demandées.
Oui, ce qu'on a appelé les assistantes de direction dans cette corporation.
Mmh. Ce que j'ai vu, c'est que aux États-Unis, ces deux types de métiers, du coup, est-ce que c'était des personnes qui ne faisaient pas les mêmes formations. Que d'un côté, il y avait des écoles de sténographie dont l'argument était que l'on pouvait se former en seulement 5 semaines et pouvoir avoir un travail le plus vite possible. Tandis que d'autres écoles, les écoles privées Catherine Gibbs, du nom de leur fondatrice, destinées à former ces secrétaires d'élite, c'était des écoles où on apprenait pas seulement à faire de la sténographie et taper à la machine, mais aussi à s'habiller d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon, à correspondre à un certain standard, en fait.
D'élite, hein. Prestige, avec le costume approprié, je suppose.
Voilà. Et dernière chose qui m'a interpellée dans ma lecture, c'est que parmi ces secrétaires, en fait, beaucoup étaient surqualifiés et beaucoup étaient allés à l'université, des fois dans les mêmes universités que celles de leur patron. Et l'école de secrétariat leur était un peu vendue comme le lot de consommation. Vous êtes allé à l'université, Vous croyez vraiment que les hommes allaient vous laisser devenir médecin et avocate ? Pouah, et ben non. Mais, deux arguments. Soit l'argument, et ben vous n'allez pas être directement avocate, mais vous allez commencer par être secrétaire de l'avocat. Et après, peut-être, avec de la chance, vous allez pouvoir monter les échelons. Voire même un argument, et ben ça n'arrivera pas, mais grâce à votre travail, vous allez être au contact avec les avocats qui faisaient le travail qui vous intéressait.
Ouais, il y a beaucoup de films, notamment le film, j'y reviens parce que tout à l'heure on a parlé d'un film, c'est Working Girl qui parlait de ça.
Puis en fait ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait que le métier à la base c'est un truc à la base pour les femmes bourgeoises, du coup il faut avoir les codes bourgeois et puis en plus de ça c'est jamais fait pour faire carrière, c'est fait pour servir en attendant de se marier. Et d'avoir un vrai sens à sa vie, quoi. C'est ça, en fait.
Et servir de café, beaucoup.
Voilà.
Voilà, j'ai même lu dans un des manuels cités par Lynn Peril, l'argument comme quoi le métier de secrétaire, ça allait être un excellent entraînement pour la vie de femme mariée. Parce que tout ce que tu vas apprendre pendant ton métier, tu vas pouvoir le réutiliser ou dans le foyer.
Tout à fait.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de musique ?
Bah vas-y, hein.
Allez, on s'écoute un petit morceau de Karen Cheryl, Dorothée et Jane Birkin,
wow.
Qui c'est le trio des secrétaires.
Et c'est Jane qui me fit entrer comme secrétaire chez son patron. Il y avait une troisième fille, très sympathique, Karen. Oh là 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 là, on formait un drôle de trio.
Splendide.
Du lundi au 9h, 5h30. On tape, on retape encore de nos jolis doigts d'or. Des pages d'écriture, des lettres et des factures. Des signes, de points à la ligne sur nos petites machines. Que c'est dur d'être secrétaire. Faut pour sûr un bon caractère. Que l'enfer.
J'ai caché mon tailleur blanc en changeant le ruban. J'ai filé mes bas du haut jusqu'en bas. Je peux pas sortir comme ça. Hier, le sous-directeur m'a offert quelques fleurs. Il m'a demandé si je pouvais rester pour finir le courrier. Oh,
que c'est dur d'être secrétaire. Faut pour sûr. Faut jamais en faire, on vous jure, c'est presque l'enfer.
Dès qu'on se fait les ongles, y'a le téléphone qui sonne. C'est trop difficile pour être tranquille, moi j'ai coupé les fils.
Sur nos petites machines, on a tapé trois lignes. Jolie secrétaire, gentille et sincère.
The executive floor, it should be organized, but it's not. So you'll find account executives and creative executives all mixed in together. Please don't ask me the difference. Great. Hopefully if you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here.
Hello, John.
Like that one. So how many trains did it take you?
Only one, but I got up very early.
In a couple of years, with the right moves, you'll be in the city with the rest of us. Of course, if you really make the right moves, you'll be out in the country and you won't be going to work at all.
You'll be here just across the aisle from me. We'll both take care of Mr. Draper for the time being. I don't know what your goals are, but don't overdo it with the perfume. Keep a fifth of something in your desk. Mr. Draper drinks rye. Also, invest in some aspirin, band-aids, and a needle and thread. Rye's Canadian, right? You better find out. He may act like he wants a secretary, but most of the time they're looking for something between a mother and a waitress. And the rest of the time, well. Go home, take a paper bag, and cut some eye holes out of it. Put it over your head, get undressed, and look at yourself in the mirror. Really evaluate where your strengths and weaknesses are, and be honest. I always try to be honest. Good for you. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use.
I sure hope so.
At lunch, you need to pick up a box of chocolates, a dozen carnations, and some bath salts. I'll explain later.
Thank you, Miss Holloway. You're really wonderful for looking out for me this way.
It's Joan. And listen, don't take this the wrong way, but a girl like you with those darling little ankles, I'd find a way to make them sing.
Vous écoutez toujours Dégenrés sur Radio Campus Grenoble 90.8 et voilà, nous avons écouté une petite musique, comme quoi nous avons beaucoup d'humour. On remercie Marina pour cette suggestion.
Bravo.
Et voilà, on peut enchaîner aussi. Est-ce que vous aviez d'autres réactions par rapport à l'aspect historique un peu du métier ou...
Vas-y, si tu as envie. Moi, non, c'était bien résumé. En fait, il y a beaucoup de fantasmes, hein, quoi qu'il en soit, et de stéréotypes, comme le montre la chanson là, qu'on a écoutée.
N'est-ce pas ?
Ouais, c'est clair. c'est évident. Ouais.
On va en parler. Ça se passe de commentaires.
Ouais, ça se passe aussi de commentaires.
Mais alors ouais, du coup, on se moque un peu là dans cette chanson, entre autres des clichés et tout sur les secrétaires. Mais en vrai, les secrétaires, ça fait beaucoup de choses. Ça fait du travail administratif et en même temps, on attend d'elles, comme on l'a dit jusqu'à présent, un travail un peu domestique en fait.
Bah, entre la femme et l'épouse et la mère aussi en fait. Parce que par exemple, quand tu es secrétaire d'un service entier, en fait... Tous les gens du service en fait dépendent de toi, un petit peu comme si tu étais leur mère en fait. Tu dois organiser en fait toutes les tâches domestiques, c'est toi qui es responsable en fait de la propreté des lieux, même s'il y a une femme de ménage. En fait, si par exemple on a une cuisine collective, en fait, si les gens oublient de faire leur vaisselle, qui c'est qui va se taper la vaisselle? En fait, c'est la secrétaire. On s'attend à ce que tu fasses ça, on s'attend à ce que tu fasses le café, on s'attend à ce que tu organises ton planning, mais aussi le planning de toutes les autres personnes du service. Enfin, et donc du coup, en fait, tu te retrouves, ni plus ni moins, à faire le travail en fait, d'épouse et de mère qu'il y aurait dans une famille. En fait. Et c'est pour ça, moi, ça ne m'étonne pas non plus en fait, que dans l'historique du métier, on a vendu ça aux femmes en mode « Ah, ça va vous préparer en fait, au travail de mère et d'épouse, en fait, en attendant de pouvoir vous marier. » Parce que, ouais, c'est un peu ça quand même.
Et oui, et puis c'est vrai que actuellement, moi, je reviendrai, mais on essaye de se détacher de tout ça, justement, de ces critères-là.
Mm-hmm. Est-ce que vous voulez expliquer un peu plus en quoi consistent vos métiers, du coup, et du coup le panel des compétences que ça demande en fait que vous déployez pour pouvoir le faire correctement? Vas-y, ouais. Corley.
Déjà, par exemple, tu as toute une partie d'organisation, en fait, pour caler les réunions, en fait, de toute l'équipe. Du coup, tu dois connaître ton propre planning, mais aussi le planning, en fait, des personnes que tu assistes. Il y a tout ce qui est, on en a parlé, transcription, par exemple, des comptes rendus, de réunions, tout ça. C'est toi qui t'occupes de toute la partie, en fait, transmission de l'information. Et donc, tu disais très bien tout à l'heure que, justement, on est, en fait, au contact de toutes les données, en fait, on va dire sensibles en fait, du service. Donc, en fait, c'est toi qui as toutes les informations, qui connais toutes les manières aussi de contourner les procédures chiantes, qui connais toutes les procédures chiantes aussi à appliquer. Je sais que par exemple, il y a une partie de mon métier qui consiste à recenser et à valoriser les publications des chercheurs de mon laboratoire. Et donc, par exemple, typiquement, moi, quand j'ai dû me présenter moi-même au niveau du labo, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit que j'étais Big Brother. parce qu'une partie de mon métier consiste à les fliquer sur Internet et à trouver leur dernière publication parce qu'en en fait, ils ne me transmettent pas l'information. Donc en fait, moi, je cherche l'information et du coup, je connais chaque personne. Et moi, je sais que j'adore ça dans mon métier, c'est-à-dire que personne ne connaît ma tête. Je leur envoie des mails tous les jours, tout le monde connaît mon nom. Mais à chaque fois, on me demande, c'est quoi ton sujet de thèse ? Parce qu'en fait, ils savent pas que je suis la secrétaire du service. Et du coup, à chaque fois, je suis là, je fais, mais moi, en fait, je connais exactement le nom de la personne, limite, je connais son adresse personnelle. Mais elle, elle n'est pas foutue, en fait, de savoir qui je suis quand elle me voit.
Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ce côté un peu fantôme, mais qui fantôme de l'ombre, qui est là, qui connaît tout de vous, qui est Big Brother, comme tu le disais, qui connaît tous les sujets. Forcément, par on est obligé dans ce que l'on fait, dans ce que l'on nous demande aussi, nos ordres de mission, c'est un peu ça. C'est aussi de cette forme d'organisation. Alors forcément, on va à la recherche parce que rien n'est facile. On doit aller à la recherche d'informations et au final, ouais, on récolte beaucoup, beaucoup d'infos. Et on essaye aussi de pas... Enfin, il y a toujours ce côté, moi, je trouve un peu déjà indéfinissable et indéfini quand on présente, pour ma part, administration, c'est quoi ? On ne sait pas ce que c'est.
C'est l'enfer. Ouais. Quand tu dis administration aux gens, pour eux, c'est l'enfer. Tu vois, c'est les tu sais, Astérix avec son petit formulaire qui galère. C'est ça, en fait. Hein.
Ouais, c'est la croix à la bannière, ça, on le sait. Mais ça ne va pas chercher plus loin.
Mais ça n'a pas cherché plus loin, en fait, en vrai.
Et c'est ça que ça continue, en fait. Oui, tant qu'il y a une personne qui est dévouée à ses tâches, tant mieux.
C'est ça. Et puis, par exemple, en fait, pour des procédures à la con, que, en fait, les gens, par exemple, moi, je m'occupe d'une partie des missions où je m'occupe de, en fait, de certains remboursements. Ils ont beau se faire rembourser plusieurs fois dans l'année certains trucs, en fait, ils savent toujours pas quel formulaire ils doivent employer. Et au lieu, en fait, de prendre du temps sur leur temps personnel pour retrouver le formulaire que je leur ai déjà envoyé, ils se disent, je vais demander à Coralie, hein, parce qu'en vrai, c'est son job de se rappeler tout ça et de s'occuper, en fait, de ma charge mentale. Ouais. En vrai.
Ouais, si tu fais bien de le dire, la charge mentale, parce que moi je pense que c'est vraiment un grand fléau, parce qu'il y a aussi cette sensation de poids sur les épaules, et ça rejoint le côté de tout à l'heure qu'on parlait de maternant, etc., qu'on doit tout savoir, tout faire, etc., et au final il y a quand même ce poids et donc cette charge mentale. Qui, mine de rien, je ne sais pas si les secrétaires, elles ont le plus... je pense qu'il y a beaucoup de burn-out chez les secrétaires. Je pense aussi.
Mais il y a une charge mentale, il y a aussi la charge émotionnelle aussi. Où en fait, quand tu es secrétaire, tu gères l'emploi du temps des autres, mais tu gères aussi tous leurs problèmes, parfois personnels. En fait, tu es aussi assistante sociale, tu es aussi psychologue. Enfin, moi, je sais que souvent, les gens, ils viennent dans mon bureau pour pleurer, me raconter leurs problèmes. Moi, j'avais inventé un truc en mode « pose ton cul, prends un carré de chocolat et raconte-moi ton seum, en fait ». Et du coup, c'est ça qui se met en place. Mais en fait, par contre, du coup, comme tu es une fonction utile, toi, le jour où tu as besoin, en fait, de déballer ton seum, il n'y a plus personne. Mmh.
Je me demande si les gars, justement, qui exerçaient ce métier-là à la base, vu que, comme on disait, c'était à la base un métier réservé aux gars, ils faisaient ça aussi. Parce que souvent, c'est vraiment un truc qu'on réserve un peu aux nanas, en fait, ce truc de charge mentale, de prise de soin de l'autre, de tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de toutes ces compétences que ça demande, moi, il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est l'espèce de mémoire de fifou que ça vous fait développer, quoi.
Ouais, mais tu sais, c'est le côté Big Brother, en fait. tu sais, en fait, je pense que quand tu prends en charge ce qu'on vous dit pas, c'est que quand on devient secrétaire, on nous offre des barrettes de mémoire vive en plus.
Mais non, t'as ça dans ton ADN parce que t'étais faite pour faire ce métier, n'est-ce pas ?
Mais tout à fait. Bah, déjà, je suis une femme. Hein,
Tout à fait, ouais. Bien sûr, on était nés pour ça.
Voilà.
Mais c'est vrai que ça développe pas mal de compétences et on apprend tous les jours, hein. Et bon, on va dire que c'est un désavantage quelque part. Enfin, mais c'est aussi ce côté un peu pernicieux, forcément.
Caro, tu voulais rajouter un truc ?
La petite touche historique.
Eh oui !
Que dans les années 60, c'était complètement assumé que le rôle des secrétaires, c'était entre autres d'être des boosteuses d'ego. que, par exemple, dans How to be, So You Want to be an Executive Secretary, un bouquin de 63, ça disait que la secrétaire, comme son épouse, elle est fière des succès de son patron mais ne mentionne jamais ses échecs. Comme sa mère, elle est fière de ses qualités mais oublie tous ses défauts. Et comme sa meilleure amie, elle écoute ses problèmes avec sympathie et confidentialité, mais ne le contredit jamais.
Mais oui, mais tout à fait. Mais même, elle sait même pas qu'elle mentionne pas les échecs de son patron, c'est qu'elle doit les assumer en son nom propre.
Et oui, ça c'était aussi dit dans les manuels qu'il était attendu que la secrétaire porte le chapeau pour protéger la réputation de son patron. Avec la limite que ça devrait être uniquement pour protéger son image extérieure et que le patron va trop loin si il te demande de faire semblant que c'est toi qui as foiré mais qu'il n'y a pas de public.
Ah, il y avait écrit ça dans les manuels, vraiment ? Ouais, ok. Parce que ça, tu vois, typiquement, c'est un truc, en fait, tu le vis pas, en fait, dans la réalité du métier. Quand ton patron, il merde et qu'en fait, il a décidé de te faire porter le chapeau, il s'en fout, quoi.
Après, ça dépend des structures aussi, je pense. C'est vrai que dans les structures privées, comme dans celles de public, y a des différences. Elles sont peut-être pas si approfondies, mais il y en a quand même des fois. Il y a des nuances, du moins. Ouais. Et je ne parle pas des structures associatives qui sont les pires, bien sûr. Je rigole.
Bah, si, si, en vrai, c'est particulier, les structures associatives, quand même.
Mm-hmm. C'est vrai que j'ai entendu dire, là, dernièrement, alors, Pôle emploi fait pas mal de webinaires et des confs, ou j'en sais rien, parce que ces secteurs d'activité, donc d'administration, notamment, sont en sous-effectif, et notamment pour pas mal d'associations, de structures associatives. Ouais.
D'associations associatives, oui. Ouais. C'est sûr. D'ailleurs, on vous invite à écouter une émission de Dégenré qu'on a déjà fait sur le travail associatif, qui est excellente. Voilà. Travail associatif, Dégenré, sur radiorageuse.net ou sur Radio Campus. Je ne sais pas si on était déjà à Radio Campus. Bon, bref, vous le trouverez. Ensuite, d'autres choses ? Carreau à la manette.
Tu peux nous parler du costume, hein, parce que c'est quand même emblématique, hein, et des talons aiguilles.
Ah ouais.
Ouais, des tailleurs et tout ça.
Costume et les talons aiguilles que je vais vous en parler plus en détail prochainement, après la musique.
Ah oui.
Mais dans certaines entreprises japonaises, seuls les employés féminines, office ladies, sont tenus de porter un uniforme et des talons.
Et les talons, ouais. J'ai retrouvé l'info, c'était suite à MeToo, il y a quelques années, il y avait eu la révolte des talons aiguilles qui interrogeait beaucoup le Japon, et ça s'appelait donc hashtag Q2. Q2. K-U-T-O-O. Q2.
Ok.
Et que, bah, forcément, dans les guides de la bonne secrétaire ressemblaient beaucoup aux magazines féminins généralistes avec des conseils vestimentaires de l'ordre de « un peu mais pas trop ». Habille-toi bien classe, mais pas comme une star de cinéma.
Ok. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau ?
Oui.
Alors, on vous propose d'écouter Dolly Parton, 9 to 5. À tout de suite.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead. Won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me.
watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Donc oui, secrétaire, en fait, on en rigole, mais ça demande énormément de compétences. Moi, personnellement, quand je vois, parce que Coralie, on se connaît aussi en dehors de l'émission, quoi. Et juste quand tu régurgites les discours de copines et tout ça, qui racontent sa vie sur par le menu, et que tu y arrives, et que t'en rates pas un morceau, moi, franchement, je suis impressionnée, quoi.
Est-ce l'habitude que... des comptes rendus, tu sais.
Non, mais c'est un truc de fou. Moi, perso, je suis pas cap. Est-ce que vous avez d'autres réactions sur cet aspect compétences extraordinaires?
Ah oui, les compétences extraordinaires. Moi, il y avait un truc que c'était... bon, plus trop maintenant, parce qu'il y a la technologie, elle est là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on nous demandait d'avoir des mots à la minute. Alors moi, je m'étais vachement entraînée en tant que dactylo et je trouvais que je tapais vite. Hein. Alors de mes souvenirs, c'était 140 mots à la minute, ce qui était, je pense, un peu
pas mal.
Pas mal, un peu au-dessus de la moyenne. Je ne sais pas sur quels critères c'était, mais ouais, je tapais vite moins maintenant parce que bon, j'ai pas envie de taper plus vite. Mm-hmm. Mais il y avait cette compétence-là. Il y a aussi le téléphone aussi. Il y avait des gros standards qu'il fallait
gérer. Tu gères toutes les lignes, et tu transfères les appels.
Ça, j'ai vraiment fait un burn-out avec ça. Je ne sais pas si tu as connu, mais moi, j'ai connu le Telex à l'époque.
Ah non, mais non.
Ouais,
non.
Moi, je suis vieille.
C'est quoi le Telex?
Oh là là, le Telex, c'était... pour schématiser, c'était le télégraphe des années. C'est un truc. J'ai fait ça sur la fin, donc j'ai expérimenté une à deux fois. C'était dans les années 80. C'était une grosse machine déjà, c'était avant le Minitel, pour simplifier. Mais on pouvait s'envoyer des messages à l'autre bout d'un continent à l'autre, quoi, assez rapidement, comme le faisait le télégraphe à l'époque. Pour schématiser. Et d'autres compétences, oui, maintenant, il faut savoir faire tout plein de choses. Hein. Il faut être dans la com, beaucoup, beaucoup. Donc, maîtriser les réseaux sociaux, avoir les codes aussi de réseaux sociaux. Avoir aussi... beaucoup d'indexation et de recherche affinée, et aussi vis-à-vis de ton travail, Coralie, avec, je suppose, la recherche d'informations concernant la vérification des sources, etc.
Moi, j'ai toute une partie, en fait, mais après, mon travail est un peu spécifique, mais en termes de documentation, en fait. Donc, connaître toutes les normes bibliographiques, en fait, de la recherche universitaire, tout connaître en termes de publications scientifiques, en fait. Et aussi, maintenant, on me demande de plus en plus de me former aux techniques qu'ils emploient, en fait, pour faire de la recherche universitaire. Tout ce qui est sciences ouvertes, tout ce qui est diffusion, publication, et aussi me former sur tout l'aspect juridique. Et du coup, comment faire en sorte que ta recherche universitaire, en fait, continue à t'appartenir pour pouvoir lutter contre la mafia scientifique d'Elsevier, par exemple.
Ok, beaucoup de choses. Mais du coup, il y a aussi quand même, du coup, tu commençais à l'évoquer tout à l'heure, Caro, il y a de la résistance aussi dans ce métier qui existe. Et tu nous parlais du coup d'un bouquin sur des employés de bureau au Japon.
Ouais. Alors, ce bouquin, il s'appelle Office Ladies and Salaried Men, Power, Gender and Work in Japanese Companies, de Yuko Ogosawa. Et du coup, l'autrice, c'est une sociologue qui a voulu étudier les stratégies de résistance des employés de bureaux japonaises. Et pour ce faire, elle s'est fait embaucher via une agence d'intérimaire dans une grande banque à Tokyo. Et après cela, elle a complété sa recherche par des interviews d'hommes et de femmes qui travaillent dans ces grandes entreprises japonaises. Ce qu'elle décrit, c'est que ces grandes entreprises ont un système discriminatoire où les personnes se font embaucher à la fin de l'université selon deux statuts différents. Un statut qui s'appelle Sogoshoku, qui est le parcours intégré de personnes qui commencent par des tâches administratives simples mais qui ont vocation à devenir des cadres et monter dans la hiérarchie ensuite. Et d'autre part, l'Ippanshoku, le parcours administratif. Sauf que, de fait, quasiment toutes les personnes Shogosoku sont des hommes et les personnes Ippanshoku sont des femmes. Et ces femmes de bureau, qu'on appelle office ladies, sont chargées non seulement de taper des lettres, de faire de la compta de base et des photocopies, mais également, et ça, elles le détestent, de servir le thé quand on invite des clients. Et elles détestent se faire interrompre en plein milieu de leur tâche parce qu'il faut préparer 3 thés dans la salle de réunion numéro 2. Ce qu'a observé la sociologue, c'est que ces femmes ne se rebellaient pas contre la structure en tant que telle et n'allaient pas faire la grève et exiger de pouvoir devenir des encadrantes ou de ne plus servir le thé, mais qu'elles avaient des moyens de pression sur les hommes plus indirecte. C'est-à-dire que les femmes parlaient énormément entre elles et ragotaient énormément entre elles à propos des hommes, se moquaient un petit peu la course à la promotion à laquelle se livraient les hommes et auxquels elles étaient exclues. Et de cette façon se faisaient, créer des réputations.
Ah ouais. Alors qu'il y a des costards.
C'est ça.
Et le jour de la Saint-Valentin, ces femmes rendaient public ce qu'elles pensaient des hommes par cette coutume où elles venaient leur donner des chocolats. Et du coup, les hommes voyaient, certains avaient peu de chocolat, certains avaient beaucoup de chocolat.
Ah, en fait, elles créent une réputation et du coup, en fait, la personne à qui elles ont donné une bonne réputation, il se retrouve avec une tonne de chocolat et donc il est valorisé au sein de l'entreprise.
Voilà, alors que son voisin, il voit bien qu'il en a que deux.
Ah, ok.
Et voire même, pour des hommes particulièrement détestés, ça leur arrivait de leur donner des chocolats intentionnellement cassés. Mais l'homme n'avait pas d'autre choix de dire merci.
Ah, c'est pas des chocolats à crotte de nez non plus. Dommage.
Ah non, on n'est pas dans Harry Potter.
En plus de récompenser les hommes avec les chocolats, elle pouvait également punir ceux qui se comportaient pas bien, qui leur demandaient de rester trop tard, qui étaient pas généreux, qui leur parlaient mal.
Mais comment elle les punit ?
Alors, comment elle les punissait techniquement ? Ouais. Ben, elle pouvait choisir de faire le strict minimum et ne prendre aucune initiative.
La base.
Ouais. Voir des fautes et ne pas les relever. Voir que la collègue est pas là, qu'il y a un post-it qui dit « urgent, taper cette lettre », mais ne rien faire et faire comme si elles n'avaient pas vu le post-it. Voir des courriers importants et savoir qu'ils sont importants et pas les retransmettre.
Ça, c'est pas vrai.
Elles pouvaient également refuser des choses qui n'étaient pas de l'ordre de leur mission normale, mais de l'ordre de la faveur. C'est-à-dire les hommes qu'elles aimaient bien, elles pouvaient accepter d'aller dîner avec les clients le soir, mais les autres dire « bah non, je suis occupée
». Ok, non mais dîner avec les clients, ok, ouais.
Une autre chose qu'elle pouvait faire, c'est comme, contrairement à l'imaginaire occidental où il y avait une secrétaire, un patron, dans les entreprises japonaises, les secrétaires étaient jamais assignés à un seul homme. Et dans leur ordre de priorité, bah, elles pouvaient faire à la fin de la journée, en dernier et seulement s'il restait du temps, les Celui travaux pour les hommes qui étaient casse-couilles. Et bah, pour se plaindre, ça voulait dire que, comment dire, ils ne pouvaient pas se plaindre parce que c'était le travail d'autres mecs. Ça. Et la chose la plus extrême qu'elles pouvaient même faire, c'était refuser tout simplement de faire le travail. Et parfois, elles pouvaient s'en sortir ainsi. Pourquoi ? Parce que si l'homme se plaignait, les services RH pouvaient considérer que c'était sa responsabilité à lui, parce que ce sont les hommes qui sont supposés être les managers, et que s'il n'arrive pas à faire coopérer les office ladies, ça veut dire qu'il est un mauvais manager et qu'il n'aura pas sa promotion.
Ah ouais.
Et solution de dernier recours, parfois, les office ladies se concertaient entre elles pour tout simplement faire la gueule à un mec de façon extrêmement ostensible.
Ah, il faut que tu retrouves.
Genre, le mec essaye de parler du temps, la personne répond, toutes les secrétaires répondent sèchement oui, et arrête la conversation, tente des papiers sans rien dire, sans un mot. Répondre à n'importe quelle question, je ne sais pas, ou ce ne sont pas mes affaires.
Ça donne des idées quand même. Hein.
Ouais, moi, j'en ai déjà appliqué certaines.
Ah ouais, ouais. Attends, un papier comme ça.
Ah oui, mais complètement.
Une feuille blanche.
Et que, du coup, ça incitait quand même les hommes à se tenir pour ne pas être victimes de cette forme de counseling collectif. Bon, la conclusion de l'autrice dans son bouquin a quand même un côté un peu amer et ironique en disant que le pouvoir de ces office ladies japonaises découle en fait du fait qu'elles n'ont pas grand-chose à gagner vu qu'elles sont exclues de la course à la hiérarchie et donc pas grand-chose à perdre. Et que c'est pour ça qu'elles pouvaient se permettre de saboter le travail, alors que les hommes ne le permettaient pas.
D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait parlé avant l'émission, tu avais dit qu'elles avaient aussi ce truc-là de... Elles peuvent pas évoluer en fait, dans leur carrière, parce qu'en fait, leur emploi est temporaire avant en fait, leur mariage, généralement.
Voilà, c'est ça. L'attente, c'est qu'elles prennent leur retraite au moment où elles sont mariées, ou au moment où elles ont des enfants, ou au moment où leur mari est muté. Parce que la politique de ces entreprises, c'était de faire tourner les hommes d'un département à un autre et d'une ville à un autre pour des raisons pédagogiques, pour devenir après des bons dirigeants parce qu'ils ont fait le tour de l'entreprise. Que techniquement, ces femmes avaient droit à des congés maternité et des congés parentaux, mais que de fait, quand une femme prenait un congé, rien n'était fait pour la remplacer et la surcharge de travail tombait sur ses collègues qui restaient.
Ah oui, donc génial de retour à l'emploi après, en fait. Mmh. Ok.
Et alors du coup, à part l'aspect résistance, il y avait aussi l'aspect, le fait que du coup, le métier a été parsemé de changements technologiques, d'évolutions technologiques, qui ont amené aussi des changements dans le travail.
Oui, ça évolue. Moi, ce que je vois, c'est comme les compétences. Hein, donc, il faut avoir des compétences maintenant dans tout. Hein. C'est le panel, c'est pas que taper des lettres ou répondre au téléphone ou je sais pas quoi. Non, c'est il faut savoir. Il y a un petit peu de création qu'on. Mais quelque part aussi, je voulais dire, il y a ces travaux, soit dans cette corporation et en tant qu'exécutante, soit on est dans une autre posture et qu'on croit aussi d'arriver à une promotion, voilà. Après, ça dépend justement des structures, mais bon, il y a aussi cette idée que soit on travaille vraiment beaucoup, beaucoup pour y arriver quelque part, si on a cette ambition-là, bien sûr.
Si on a la possibilité aussi d'évoluer, en fait.
Oui, mais bon, ça dépend quand on débute, comme c'est un métier qui est souvent, c'est un des premiers métiers qu'on peut faire, hein, sans actuellement de réelles qualifications. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu ça. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30-35 ans.
Ouais, je pense que ça dépend des milieux parce que je suppose que tu vois, par exemple, si tu veux être secrétaire médical, je pense que tu as besoin d'avoir de certaines qualifications, enfin, j'imagine.
Ouais, peut-être. En tout cas, il faut connaître, mieux connaître les structures et le milieu où tu vas évoluer. Mais après, les bases, ça reste un petit peu les mêmes, quoi qu'il en soit.
En fait, moi, je dirais pas qu'il faut pas de qualification, en fait, parce que ça dépend vraiment des trucs. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une partie comptabilité financière, en fait, dans mon métier. Et clairement, j'étais pas qualifiée pour ça. Après, j'étais qualifiée pour d'autres choses. En fait, quand j'étais recrutée, j'étais qualifiée sur la partie communication. Mais par contre, j'ai été formée en interne, en fait, sur la partie comptabilité. Et moi, personnellement, tu vois, sur la partie comptabilité, je dirais pas, tu peux débarquer sans qualification. Il faut quand même que tu formes les gens. Peut-être que les gens peuvent débarquer sans qualification, mais il faut que tu les formes quand même sur certaines parties.
Oui, il y a toujours. De toute façon, on apprend toujours dans ce métier. Mais c'est vrai que ça dépend. Quand on débute, ça dépend. C'est là aussi que tu découvres pas mal de trucs. On te dit secrétaire, peut-être standardiste. Mais en fait, non, il faut savoir avoir des notions, c'est pas expliqué, mais il faut avoir des notions de compta ou de choses plus level. Alors que c'était pas ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de facilité d'accès dans un premier boulot, par exemple, quand tu postules un job de secrétaire. Après, bien évidemment, il y a des écoles, il y a toute une... Je ne sais pas s'il y a un BTS pro qui fait ça.
Mais je pense qu'il y a des BTS, il y a des bacs pro, il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, dans le secrétariat, tu as plein de corps de métiers différents. Tu as plein de tâches différentes, en fait. On peut te demander autant de faire de la communication, qu'on peut te demander de faire de la comptabilité, qu'on peut te demander aussi parfois de faire des ressources humaines. Je vois par exemple ma collègue qui est responsable, qui est en fait aussi secrétaire. En fait, elle s'occupe de toute la partie ressources humaines, en fait, de notre service. Et donc ça, par exemple, c'est un corps de métier spécifique, en fait, aussi. Où on te demande, en fait, d'avoir des compétences en termes juridiques, sur les contrats, des trucs comme ça. Où t'es pas forcément formé, et tu te formes sur le tas. En fait, c'est un métier, beaucoup, où tu te formes énormément sur le tas, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et par petites formations, une formation ici, une formation là. Et aussi, c'est un métier où, en fait, tu rentres dans ton poste, t'as une fiche de poste, en fait, définie, mais en fait, on te rajoute des tâches au fur et à mesure.
Ouais.
Et t'as aussi toute une partie, en fait, invisible de ton métier, qui n'est pas du tout sur la fiche de poste et dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les tâches domestiques, en fait. Tout ce qui est, en fait, on en parlait en dehors de l'émission, la partie lubrification sociale du métier, en fait. C'est toi qui, en chopant les informations, en les transmettant, fais toute la partie, en fait, de lubrification sociale de toutes les personnes de ton service. Ah bah oui, c'est toi qui fais, en fait, qui apporte l'huile pour faire... rouler, en fait, et tourner la machine. En fait
c'est ça, les secrétaires, ce sont des super-héroïnes, au final.
Mais super-héroïnes, mais invisibles, tu vois.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on est plus... Enfin, on fait partie de la machine, bien évidemment, mais on est un sacré rouage.
Mais c'est pour ça que ça fait un petit peu comme les mères de famille, en fait. Tu sais, la mère de famille qui s'occupe des anniversaires de toute la famille, mais, en fait, celle dont on oublie l'anniversaire.
Tout à fait.
Dernière anecdote que je pense, quand j'étais dans un laboratoire, et ben dans l'organigramme, c'était qui les seules personnes qui n'avaient pas leur nom de famille ? C'était les administratrices.
Mais on n'a pas besoin de connaître nos noms de famille, tu sais. À part pour nous envoyer des mails, sinon pas besoin de connaître nos noms.
Oui. Je suis désolée, le temps file. Et en plus de ça, il y a une autre émission qui doit commencer, hein. Du coup, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, c'était vachement bien. Notre prochaine émission, elle devrait porter sur la mixité choisie, les intérêts qu'il y a à la mixité choisie. Et puis, désolé, je vous coupe, c'est vrai. Mais voilà. Et du coup, je vous propose de se quitter en écoutant un dernier petit morceau qui s'appelle « Un oiseau dans le réacteur ». Et puis, voilà.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
On se retrouve bientôt. Bisous.
Je voulais rajouter quelques mots qui ont été fabriqués après la première diffusion à l'antenne de cette émission parce qu'on a dû s'interrompre un peu abruptement et qu'on n'a pas eu le temps de vraiment clore le sujet. Je voulais conclure en disant que s'interroger sur les secrétaires, c'est beaucoup s'interroger sur la division au travail et la hiérarchie du travail au sein des bureaux qui étaient donc initialement occupés par des hommes en col blanc, jusqu'à ce qu'ils choisissent de s'entourer de femmes en leur attribuant des rôles spécifiques pour qu'elles ne soient pas mises en compétition avec eux. En leur confiant donc du travail de type domestique, parce que c'est pas parce qu'on nomme un endroit le bureau et qu'on dit qu'il est séparé de la maison que il y a plus besoin de faire du travail domestique par magie là-bas. Ils leur ont également confié des travaux liés à la transcription et la rédaction des documents administratifs et, de façon générale, le travail qui est nécessaire pour que les rouages bureaucratiques de plus en plus complexes qui accompagnent dorénavant toutes les formes d'activité humaine tournent bien de la façon réglementaire. À cette division du travail basé sur le genre, il y a eu une division basée sur la classe avec les bourgeoises assistantes personnelles des patrons qui sont par ailleurs les contremaîtres d'autres femmes qui sont les génératrices anonymes des transcriptions qui sont invisibles aux yeux du patron. On voit que les différentes formes de hiérarchie qui coexistent dans les espaces de bureau, hiérarchie de genre et de classe, de diplôme, d'ancienneté, de salaire, de qui a le pouvoir de diriger qui, toutes ces hiérarchies peuvent s'articuler de plusieurs façons les unes avec les autres. Par exemple, on a parfois des systèmes hiérarchiques qui rentrent en contradiction les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est comme ça que Yuko Okusarawara explique pourquoi les office ladies ne s'organisent pas pour contester le système discriminatoire. Elle dit que c'est parce que c'est ces contradictions qui les mettent dans des positions où elles peuvent se sentir réciproquement jalouses les unes des autres et victimes d'injustice. Elle prend l'exemple d'une femme qui est plus diplômée, mais qui a moins d'ancienneté que sa collègue. Son diplôme fait qu'elle est mieux payée que la collègue, mais sa moindre ancienneté fait que c'est sa collègue, la senpai, la supérieure hiérarchique à qui elle doit faire montre de déférence. D'autres fois, on a des formes de hiérarchie qui permettent d'en dissimuler d'autres. Et là, je pense au siège social des banques japonaises des années 90, dans lesquelles on avait des hommes âgés à la carrière avancée qui étaient servis par des office ladies plus jeunes et plus récentes, puisque les hommes démarraient leur carrière dans les branches régionales de l'entreprise. Une des office ladies interviewées disait qu'elle espérait être partie le jour où les hommes de son âge seront promus au siège social, parce qu'alors on ne pourra plus faire semblant que les inégalités s'expliquent parce qu'elle a moins d'expérience et il sera criant qu'elle est traitée différemment parce qu'elle est une femme. Et maintenant qu'on est dans les années 2020, la journée des secrétaires a été renommée journée des personnels administratifs. Aux États-Unis, c'est le dernier jeudi d'avril, cette fête où on est supposé leur offrir des fleurs. Dans cette époque où les claviers d'ordinateur ont remplacé les machines à écrire, c'est devenu plus rare de déléguer la transcription mot à mot à quelqu'un d'autre. Quand on désigne quelqu'un ou quand on se désigne pour écrire un email ou un compte-rendu au nom d'une entreprise, d'une association ou d'un collectif, on demande généralement à cette personne ou on se demande de trouver soi-même les formulations et pas de taper sous la dictée de quelqu'un d'autre. Même quand on veut s'organiser en dehors du salariat, dans des espaces où on remet en question la spécialisation des tâches, où on veut avoir des mandats qui tournent plutôt que des échelons hiérarchiques que l'on grimpe dans un ordre linéaire, dans ces contextes où ça ne viendrait pas à l'esprit de demander des diplômes ou de l'expérience pour pouvoir accéder à un rôle ou à un autre, et ben même dans ces cadres-là, il faut bien que quelqu'un fasse le thé si on veut boire du thé pendant la réunion. Et même dans ces cadres-là, on trouve bien pratique quand il y a des traces écrites qui sont bien diffusées et archivées. Je viens de prendre un mandat admin pour le réseau des radios rageuses. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de mieux comprendre ce réseau et que gérer la boîte mail qui sert de point de contact et d'archivage, eh ben c'est une bonne façon de se familiariser avec ce fonctionnement. Le fait que ce type de tâche aide à comprendre l'organisation, c'était déjà vrai à l'époque des hommes secrétaires col blanc qui espéraient devenir les successeurs du patron une fois qu'ils auraient compris les rouages. C'était aussi vrai pour les femmes secrétaires qui, elles, ne pouvaient pas espérer devenir patron, mais qui savaient tout. Et c'était peut-être moins vrai pour les fabricantes industrielles de documents administratifs du pool Steno, dont leur travail à elles était taylorisé et décontextualisé. Tout ça pour dire que je considère pas que le féminisme devrait se réduire à une lutte contre le plafond de verre, qui serait gagné le jour où il y aurait la parité au sein des catégories professionnelles qu'on dit supérieures, et que je considère pas non plus qu'il y ait quoi que ce soit de dégradant en soi, dans les tâches qui étaient et qui sont confiées aux secrétaires et dont on a encore besoin. Voilà, c'est vraiment fini. À bientôt.